Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Les petits et les grands lisent en même temps. L'émission qui parle littérature jeunesse un mercredi sur deux sur Jet FM 91.2.
Bonjour Solène Gendre, vous êtes l'autrice de Home Sweet Home, un roman jeunesse aux éditions Pierre de Plume illustré par Tony Torfa.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce roman?
Alors, ce roman, j'hésite même à dire que c'est un roman, en fait. C'est un monologue, un monologue intérieur, on dirait presque. On suit la pensée d'une petite fille, donc c'est presque plutôt théâtral, je pense. Moi, je suis comédienne à la base et j'ai écrit ce texte pour ma fille parce que je voulais qu'elle ait un témoignage de son enfance. Donc, à l'âge d'à peu près 10 ans, et ça correspondait à peu près au moment du confinement, elle a commencé à avoir des petites angoisses un peu existentielles là, qui pointaient le nez. Et j'ai eu envie de mêler ça avec l'histoire aussi du confinement, le fait qu'on était dans la maison, l'intérieur de la maison, enfermé. J'ai voulu partir de ce contexte-là pour lui écrire une histoire. Voilà, qui parlait d'elle et aussi de tout son de tous les objets qui l'entouraient de la maison et voilà, je suis partie là-dessus parce que depuis qu'elle a 4-5 ans, je lui raconte des histoires tous les soirs avant qu'elle aille se coucher, et j'avais envie qu'elle ait un objet, voilà, un livre.
D'accord, très bien. Donc c'est un peu comment est né ce livre.
Oui.
Par rapport au confinement, on voit que c'est une histoire qui, en fait, Home Sweet Home, c'est un petit roman qui raconte comment une petite fille qui ne veut pas trop grandir prend son courage à deux mains pour sortir de son quotidien à force d'imagination parce qu'elle il l'enferme un peu. Est-ce que j'ai bien résumé ce livre ou est-ce que j'en oublie la moitié?
Oh, oui, si, c'est ça. C'est ça, c'est une petite fille qui décide un jour de ne pas grandir. Se dit qu'elle veut rester avec ses parents toute sa vie et un soir en montant l'escalier elle fait un petit peu un vœu comme ça en se disant bah, elle décide d'arrêter le temps et puis le lendemain elle se rend compte en écoutant la radio que un brouillard s'est installé autour de la planète et que effectivement alors si c'est plus l'espace qui est bloqué mais du coup le temps aussi est bloqué, tout s'arrête, toute la vie s'arrête et elle reste enfermée dans sa maison avec ses parents. Donc c'était son vœu initial, elle a réussi. Et elle va se rendre compte très vite que ça peut pas être viable. Et l'ennui s'empare d'elle. Et elle va essayer de trouver des solutions pour sortir, pour défaire ce sort et sortir de cette maison qui l'enferme.
D'accord, très bien. Donc, s'en sortir toujours par l'imagination et par la
Ouais.
créativité avec des voyages extraordinaires qu'on fait pour échapper à son quotidien.
Ouais.
Est-ce que vous voulez nous en lire des passages ou est-ce que vous en
Ouais.
avez déjà? Et n'hésitez pas à en choisir plusieurs si vous voulez.
Bah, je peux commencer par le début. Voilà, ce texte, c'est d'abord un texte que je joue. C'est une lecture musicale à la base. Donc je joue ce texte-là. Donc je vais prendre la voix de la petite fille pour démarrer cette lecture.
Très bien.
Ça a commencé comme ça. Rien de rien dans ma tête, un petit bout d'idée, une toute minuscule pensée, juste avant de se coucher. Ça m'arrive parfois, comme une étoile qui file à la vitesse de la lumière, wow, hop, disparue. Rien vu, rien entendu. C'était une vraie fausse bonne idée en fait. Une petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Comme dans les BD, vous savez. qu'on éteint immédiatement en rougissant. Enfin bref, jamais j'aurais cru, jamais j'aurais imaginé. J'ai dû penser trop fort. D'ici à être exaucée. C'est fou quand même. Je venais juste d'arrêter de croire aux contes de fées. Je ne l'ai pas dit à papa. Je ne l'ai pas dit à maman. Même à Mimi, je ne l'ai pas dit. J'attendrai 100 ans avant de tout balancer. Maman, elle ne m'en voudra pas. Elle aura peut-être même oublié. Elle sera très vieille. Elle me dira, c'est pas grave, en chevrotant. Mais en vrai, elle aura oublié. C'est pas grave, mon poussin-chat. Elle m'appelle poussin-chat. J'ai 8 ans et elle m'appelle poussin-chat. C'est pas grave, mon poussin-chat. C'est fini maintenant. C'est fini. Parce que dans 100 ans, ce sera fini. Enfin, j'espère. Oula, j'ai quand même un peu les chocottes. Voilà, ça c'est la première page.
Ça marche, merci beaucoup pour cette lecture. Merci. Est-ce que vous voulez nous en lire un autre passage? Est-ce qu'il y a un autre passage que vous souhaitez nous partager? Sinon, on va passer au travail d'illustration par Tony Turfer,
Oui.
que on travaille aussi avec sur d'autres ouvrages des éditions Pierre de Plume. Est-ce que c'est les éditions Pierre de Plume qui vous ont mis en contact? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Comment s'est passé le travail en commun sur ce texte?
Alors, je connaissais Tony Turfer depuis longtemps. C'est même le parrain de ma fille. Donc, c'est vraiment une histoire familiale, ce projet. Et donc, je le connaissais bien. Je lui ai présenté on est parti des objets des objets réels, en fait, les doudous, la petite poupée Traka qui existe vraiment, et donc, lui, il a proposé des illustrations, il a proposé de partir de ces objets, et puis après, forcément. Et en fait, lui, sa problématique, c'était de ne pas trop illustrer. Il avait envie que l'enfant, en lisant le livre, puisse se faire ses propres images. Donc, il est vraiment allé chercher des petites illustrations qui ponctuaient le récit, mais qui n'illustraient, qui laissaient la place à l'enfant pour développer son imaginaire. Je trouvais qu'il a vraiment très très bien réussi ça.
C'est
Ça
vrai
laisse la place
que c'est presque
là-dessus.
un roman, c'est-à-dire que c'est un texte court, mais qu'on ne voit pas comme un album parce que le texte prend la place. Il n'est pas envahi d'images. Et certains albums sont vraiment des albums illustrés où on voit beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins de peinture. Là, c'est vrai que c'est presque un roman finalement, un roman
Ouais.
joué.
C'est aussi un roman qui s'adresse à des plus grands qui commencent juste à lire. Donc les illustrations sont là aussi pour un petit peu aider et puis égayer le texte qui prend toute la page. Et puis d'ailleurs dans le texte, c'est très très imagé aussi. Il y a plein de possibilités de se faire se construire des images. Donc voilà, tout marchait bien, tout allait bien. On s'est très bien entendu sur cette collaboration.
D'accord, très bien. Effectivement, la petite fille de l'histoire résout ses problèmes par le merveilleux en rêvant à des choses fantastiques. D'où vous
Ouais.
est venue l'idée de la poupée qui, vous me dites, existe vraiment, l'accent, les origines, la poupée, elle est très drôle, cette poupée, quand elle parle. D'où vous est venue l'idée d'une poupée comme ça qui prend vie et qui se révolte?
Ça vient de ma voisine. Pendant le confinement, elle m'avait donné cette petite poupée pour ma fille. Et en fait, dans ce texte-là, que j'ai voulu construire en cassant la temporalité horizontale, donc vraiment, c'est écrit un petit peu à la manière d'un journal intime, mais sauf qu'il y a des sauts dans le temps, elle n'arrive pas vraiment à se situer dans le temps. Elle parle du jour d'avant-hier, enfin, et même dans la construction de l'histoire. On commence par un flashback. Voilà, je voulais montrer qu'elle était vraiment situé dans un espace, mais au niveau du temps, tout était compliqué. Et je pense que dans l'enfance, c'est un peu ça. On met du temps à acquérir les jours de la semaine, la projection, etc. Donc j'avais envie de parler de ce temps-là qui s'arrête, mais en même temps du temps en général, quoi, du temps qui est l'avenir, comment se projeter dans le temps, dans le fait de grandir ou pas. Enfin voilà, j'avais envie de traiter de cette histoire-là, du temps en fait. Et en même temps, je voulais que l'enfant puisse trouver des repères dans le texte. C'est pour ça que je suis partie aussi de la structure assez simple du conte, et donc on retrouve toutes les étapes du conte, c'est-à-dire un état initial, un élément perturbateur qui arrive, et puis après trois étapes de personnages qu'elle va croiser et qui vont l'aider à résoudre son problème, avec quand même cette petite particularité que elle fait appel à des objets de son passé, enfin de ses doudous, des jouets qu'elle a eus et qui vont aider, qui vont essayer de l'aider, mais qui vont pas forcément y parvenir, qui vont un petit peu lui montrer que c'est peut-être à elle maintenant de trouver, de chercher les solutions, et qu'il y a un vrai plaisir à se poser des questions, à être en face de la complexité du monde, en fait, et de la vie. Voilà.
D'accord, très bien. Donc de grandir finalement, elle prend sa décision, voilà, un peu grâce à son monde et à de grandir avec son imagination et de prendre son courage à deux mains. Vous répondez un petit peu déjà à ma question suivante. Vous faites un plan ou vous partez à l'aventure comme ça de l'imagination pour arriver à la fin d'une histoire? Est-ce que vous faites des fiches sur vos personnages ou est-ce que ils grandissent tout seuls? Est-ce que comment ça se passe la préparation?
Là, il a été construit en plusieurs étapes. Dedans, il y a un texte que j'avais écrit il y a très longtemps, le texte des doudous, que j'ai intégré au texte final. Ensuite, j'ai redémarré quand j'ai voulu vraiment commencer ce projet-là, j'ai démarré du début, et mon texte était, j'ai écrit au fil de, voilà, au fil des pages comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit, oh là là, là il y a besoin vraiment de commencer à construire quelque chose, parce que autrement ça va être, je vais passer de digression en digression. J'avais envie de ça, mais en même temps je voulais quand même ne pas complètement perdre mon lecteur. Donc j'ai commencé à construire un peu plus le plan, mais c'est pas non plus je structure en cours de route, en fait. J'aime bien partir, être libre au départ, et puis au fur et à mesure construire les choses petit à petit. Et sinon, je passe beaucoup de temps à réfléchir dessus sans forcément écrire, mais voilà, ça cogite beaucoup en cours de
D'accord.
journée, la nuit. Je prends des petites notes par-ci par-là. C'est un puzzle, quoi. Je dirais que c'est une sorte de puzzle qui se
D'accord,
construit au
donc
fur et à mesure.
une préparation un peu intérieure et aussi
Ouais.
réfléchie, sans pour autant que ce soit très, voilà, très formel, mais préparée quand même.
Ouais.
Dans quelles conditions vous avez écrit cette histoire? Est-ce que vous étiez enfermé chez vous pendant le confinement? Est-ce que vous avez pris le large sur un bateau à voile pour aller au Guatemala? Ou est-ce que l'écriture a été plutôt, voilà, est-ce que vous avez écrit cette histoire facilement, assez rapidement, ou est-ce que ça a pris des années? Comment ça s'est passé?
Bah, c'est l'idée de projet, c'était vraiment au tout début, j'avais cette envie, en tout cas, de laisser un d'écrire un texte pour ma fille. Ça, je l'avais dans un coin de ma tête. Ensuite, il y a eu cette histoire de, puis j'ai écrit quelques petits passages là qu'on retrouve dans le texte final, au fur et à mesure qu'elle grandissait. Et puis au moment du confinement, il y a eu alors je suis comédienne, et à ce moment-là, nous, comme beaucoup de gens et beaucoup de métiers, on a été arrêtés dans notre travail, et donc ça a été l'occasion de. Il y a eu plein d'initiatives pour essayer de continuer à travailler, à jouer, à créer des spectacles à l'extérieur, puisqu'on ne pouvait plus jouer à l'intérieur. Et en particulier un dispositif qui s'appelait Ouvrir l'horizon dans la région. Et on a postulé pour ça avec une amie et le musicien du spectacle. On s'est dit, tiens, On va démarrer un projet là-dessus qui va me parler de l'enfance. Et en fait, on n'a pas continué sur ce projet-là, mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et 2 ans plus tard, je crois, j'ai voulu terminer ce texte-là. Enfin, vraiment, en fait, l'écrire, quoi. Et ça m'a pris 15 jours parce que, entre-temps, en fait, c'est pas au moment où, en général, les choses se passent que j'écris. J'attends un petit peu de voir comment ça décante un petit peu. Et pour pas que ça soit un texte en réaction à quelque chose, mais qu'on puisse le lire en pensant à cette période du confinement. Mais surtout, que ça englobe plus de choses, quoi. Je trouve, j'aime bien l'idée que ça parle du temps, du fait de grandir, de choses qui sont plus vastes que juste un événement qui s'est passé et qui, en fait, personne ne se souvient plus vraiment de cette. On en subit toujours les conséquences, mais personne ne se souvient plus vraiment de ce moment-là, quoi.
Ça marche. Est-ce que alors, on parle d'une petite fille dans cette histoire. Petite fille, vous étiez comment à l'école, à la maison? Vous étiez plutôt réfléchie ou à imaginer des espaces imaginaires, à faire des voyages dans votre tête? Est-ce que vous parcouriez les chemins? Est-ce que vous étiez appliquée à l'école? Est-ce que vous faisiez l'école buissonnière? Vous étiez comment éventuellement avec les livres et les histoires?
Bah, j'étais un petit peu un peu comme le personnage de l'histoire parce que j'étais oui j'écrivais des choses, j'aimais dessiner, je m'évadais pas mal, j'étais très assez timide et avec un monde imaginaire un peu foisonnant, voilà. Donc j'ai un petit peu continué, c'est pour ça que cette histoire elle me tient à cœur parce que j'avais envie de faire le lien entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, en se disant que les âges, c'est comme des couches qui se superposent et on perd jamais vraiment l'enfant qu'on a en nous. Donc voilà, il n'y a pas à avoir peur de ça. Si on a toujours un pied dans l'enfance, enfin, en tout cas, si on veut.
Peut-être encore plus quand on est
Voilà.
artiste.
Bah, c'est vrai que j'ai choisi un métier qui me permettait encore plus d'y avoir accès, ça c'est clair, parce que c'est vrai que quand on travaille, nous, on appelle ça jouer, c'est quand même beau, c'est quand même chouette, on a un privilège incroyable là-dessus. On n'a pas que des privilèges, loin de là, surtout pas en ce moment d'ailleurs, mais ça c'est vraiment, ouais, ça a beaucoup de valeur de pouvoir avoir cette possibilité de tous les jours. Être dans l'imaginaire, l'écriture, les ateliers théâtre, plein de choses, les
Est-ce
spectacles,
que c'est
ça.
aussi le message de ce livre, choisir de jouer?
Ouais. Et j'en ai fait ma profession, mais il y a tellement de façons de continuer à jouer dans la vie, s'évader, imaginer plein de choses.
Très bien. Quand vous travaillez, est-ce que vous avez besoin d'un endroit fixe avec vos repères, peut-être vos bibelots, votre stylo, votre environnement théâtral, ou est-ce que vous pouvez vous balader un peu partout avec une feuille, un crayon, un ordinateur et écrire un peu partout? Peut-être certains ont besoin de se promener pour mieux travailler, ou comment vous
Ouais.
travaillez?
Bah, je vais pas chercher forcément à aller à l'extérieur en prévoyant d'y aller pour écrire, mais par contre, quand il y a un truc qui me vient, une idée ou quelque chose, où que je sois, par contre, je vais m'arrêter pour écrire ce que j'ai à écrire. Donc oui, ça m'arrive d'être un peu dans la voiture, enfin là où je suis au moment où une petite idée me vient et que j'ai besoin de la noter et que j'ai besoin de développer ou pas. J'aime pas, j'ai pas envie, comme pour le théâtre d'ailleurs, j'aime pas trop, j'ai pas envie de m'accrocher à des rituels parce que je trouve que ça enlève un peu de liberté et puis j'ai pas envie de ça, quoi, d'avoir besoin de choses extérieures pour pouvoir commencer à faire les choses. Je travaille beaucoup à pas avoir de rituel ou de, comment on appelle ça? Je trouve plus le mot.
Un carcan, peut-être?
Ouais, de mots magiques, ouais. Justement, ce côté magique là, par contre, celui-là m'intéresse pas. Par exemple, en théâtre, on peut, y a certains comédiens qui travaillent, enfin, qui sont obligés de passer par une certaine préparation avant de monter sur scène. Moi, j'essaye de travailler contre ça pour ne, voilà, pour pas me mettre dans cette routine là. Celle-là, elle m'intéresse pas.
D'accord, très bien. Ce livre, alors cette histoire, elle est jouée au théâtre, elle a été racontée, on peut la voir sur scène.
Oui. Là, on l'a joué la première fois en juin dernier. Et on est très contents. Là, on a joué au TNT là, pendant les vacances de février. Le TNT nous avait pris aussi pour un PEAC, donc un projet d'éducation artistique et culturelle qui permettait à 6 classes d'école élémentaire de venir voir le spectacle. Et nous, donc le musicien Sébastien Rockfeldt qui a écrit une ambiance musicale et une musique vraiment qui sert magnifiquement le texte. Tous les deux, on est intervenus 1 heure avant le spectacle, donc la semaine d'avant, une heure dans chaque classe et 1 heure après. Et on a adoré vraiment ces interventions, de rencontrer les enfants, de leur montrer, de partager avec eux notre processus de création, nos petites recettes de cuisine. C'était vraiment agréable. Et puis, c'était chouette de tester tout ça avec des niveaux différents. On avait des CE1, CE2, CM1, CM2, dans des quartiers très différents aussi. Donc, tout ça, ça nous a vraiment beaucoup enrichi, beaucoup servi. Ça a pu aussi confirmer que c'était un spectacle qui pouvait être vu par des enfants de différents âges. Et puis ce qu'on aime particulièrement, c'est de le jouer devant des familles parce que ça parle autant aux enfants qu'aux adultes, quoi. On avait envie d'avoir des lectures, toutes ces lectures différentes, quoi. Ça
D'accord,
puisse parler
une
à
histoire à
beaucoup.
lire en famille. On avait Evelyne Poirot qui nous disait que pour elle, c'était important de travailler en équipe quand on crée.
Ouais.
Est-ce que c'est important d'avoir un travail d'équipe quand on écrit une histoire, de la construire à plusieurs? Ou est-ce que vous aimez aussi écrire toute seule dans votre univers? Ou est-ce que c'est important pour vous de créer en équipe avec du monde pour apporter de l'inspiration?
Bah, alors ça dépend des projets. Celui-là, il est au tout départ assez très personnel et donc très intime au départ. On l'a monté, donc au départ, c'était vraiment adressé en plus à une seule personne, ma fille. Et donc, on l'a monté avec son père, qui est musicien, moi, comédienne, et donc ça lui a été adressé. Donc, c'était vraiment très particulier comme projet. Et puis, en fait, j'ai rencontré Fabienne qui m'a proposé de le publier, qui a proposé à Tony Torfer d'illustrer. Donc c'est devenu, l'équipe s'est montée au fur et à mesure comme ça. On a, pour en faire une lecture musicale avant le livre, alors je suis comédienne à la compagnie La Tribouille principalement. Donc toute la compagnie s'est occupée de ce spectacle-là. Donc Katia Nivoy au niveau de la diffusion, Isabelle Vinitchouk, l'administratrice de la compagnie qui ont vraiment permis que cette lecture musicale puisse trouver son public. Donc oui, c'est vraiment une histoire d'équipe de toute façon. Et c'est vrai que les autres spectacles sur lesquels je suis, c'est l'écriture elle-même est collective parce qu'on travaille en général sur des spectacles tout public qu'on écrit nous-mêmes et où on écrit, où on crée de A à Z, quoi. Donc ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment une spécificité de la compagnie même de faire appel à une costumière, une chorégraphe, des musiciens pour continuer à se battre pour que tous ces métiers-là continuent d'exister dans le spectacle vivant au théâtre. Parce que les équipes sont de plus en plus réduites et nous, on essaye vraiment de faire en sorte de pouvoir garder des équipes.
On a
Plus
une
possible.
culture vivante, on essaie de la garder, elle est précieuse.
Voilà. Ouais.
Très bien. Donc c'est des équipes qui sont précieuses. On essaye de les encourager sur cette radio et on y tient.
Ben, merci beaucoup, en tout cas, de permettre ça.
Est-ce que vous avez des projets pour dans les cartons? Est-ce qu'il y a éventuellement des salons, des projets qui sont en cours de préparation? Est-ce qu'il y a des choses qui vont venir auxquelles ils vous attendent?
Ouais, alors pour Home Sweet Home, donc sous-titre, c'est le sous-titre, c'est Home Sweet Home, une aventure au bord d'un paillasson, ce qui résume assez bien l'histoire. On a encore quelques dates cette saison. On va le jouer en particulier à Nozay, dans des écoles, dans, je crois, 3 ou 4 écoles, et à la médiathèque. Donc ça, ce sera en avril. Je me souviens plus des dates, mais elles sont sur le site. Et dans la médiathèque, je mènerai un petit atelier philo, enfin un atelier de discussion philosophique derrière, parce que l'année dernière, j'ai suivi la formation Sève qui m'a un peu initiée, qui m'a fait découvrir la philo au service des enfants et des adolescents. Et ça m'intéresse beaucoup de développer autour des spectacles une discussion qui dépasse le cadre du spectacle, mais qui puisse parler vraiment des thématiques qui sont développées là-dessus. Parce que c'est vrai que dans la compagnie dans laquelle je suis, la compagnie La Tribouille, on aime partir de thématiques de grandes thématiques. Le spectacle qu'on a en ce moment avec le tout public qui s'appelle Dans ta gueule, un art de vivre à la terrienne, qu'on joue d'ailleurs la semaine prochaine, vendredi, à Saint-Colomban. Et donc ça, on aborde le thème de la violence. On aime bien avoir des thèmes assez forts là qu'on pose là et qu'on traite de manière poétique, un peu philosophique, et puis surtout avec de l'humour et du décalage. Voilà, donc on a tout ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre projet? Bon, on a encore quelques dates avec Home Sweet Home. Et dans les projets à venir, on a une nouvelle création avec la compagnie là qu'on va démarrer bientôt. On travaille avec David Dumeau en particulier, Rodrigo Becerra en musicien. J'arrive pas à citer tout le monde, mais j'aimerais. Et puis moi personnellement, dans des projets d'écriture peut-être jeunesse, j'aimerais. Fabienne m'a proposé d'écrire un peu une suite à Home Sweet Home. Donc j'aimerais aborder une autre thématique, je sais pas, pour l'instant je suis pas complètement sûre, donc je peux pas vraiment dire. Et puis un autre projet personnel qui parlerait aussi de la séparation et du souvenir. Voilà.
D'accord, très bien. La suite de Home Sweet Home sera jouée aussi, ou ça sera un texte?
Oui. Ouais. C'est parce que de toute façon, à la base, même Home Sweet Home, ça a été joué avant d'être publié. C'est vraiment un texte oral et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, c'est peut-être plus du théâtre que du roman. La langue elle-même est plutôt parlée. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend. C'est un peu parlé, quelquefois, c'est un peu un langage oral, sans négation, parce que rythmiquement, ça fonctionne bien. Et on entend la petite fille quand elle parle. Et puis, quelquefois, c'est beaucoup plus écrit. Voilà. Donc, ça. Je pense que c'est. Ouais, peut-être plus théâtre, en fait.
D'accord, très bien. Bon, on attend la suite avec impatience et on viendra voir ça. Est-ce que vous voulez qu'on passe au rituel de cette émission qui est le portrait chinois?
Ouais, like.
Alors, si Home Sweet Home était un élément de la nature, ce serait lequel?
Ça pourrait être parce qu'en fait la nature on la voit pas trop dans cet espace clos et fermé qui est la maison, mais il y a un des personnages de l'histoire, ce sont les fissures. Au fur et à mesure de l'histoire, il y a des fissures qui apparaissent dans les murs de la maison, que la petite fille est seule à voir. Et au fur et à mesure, dans ces fissures, on commence à avoir des brins d'herbe. Donc, ce serait peut-être ça, juste quelques petits brins d'herbe dans une fissure et peut-être un petit rayon de lune qui commence à apparaître, qui donne à voir vers l'extérieur.
D'accord, très bien. Si Home Sweet Home est un vêtement chaud.
Je pense que ce serait un pyjama. Parce que le monde, en fait, on passe vraiment du jour, de la nuit, on ne sait plus exactement quand est-ce que c'est le jour, la nuit, on la voit souvent en pyjama. On sait, y a vraiment un. J'ai essayé de travailler entre. Évidemment, en parlant de la réalité et de la fiction, mais aussi du rêve, du sommeil, du jour, bon, voilà, en mélangeant tous ces espaces. Donc, ce serait un pyjama, définitivement un pyjama.
D'accord, un pyjama pour être bien au chaud à l'intérieur
Ouais.
et grandir voilà, de façon bien chaleureuse. Si jamais c'était un élément sonore, un bruit, ce serait lequel?
Là, je vais reparler des fissures. Je pense que c'est dans la lecture musicale, il y a un son en particulier que j'aime. C'est le bruit des fissures que le musicien Sébastien Hochfeld a trouvé. Il passe ses ongles sur les cordes de sa basse électrique. Ça crée une sorte de son un peu mystérieux, un peu voilà, c'est un son mystérieux. Et puis je trouve ça beau l'idée de se dire qu'une fissure, ça a un son.
Ça marche, je sens l'imaginaire un peu dans le
Ouais.
cocon familial où on ouvre des brèches pour ouvrir vers l'âge adulte
Ouais.
et le monde extérieur. Très bien. Si Home Sweet Home était une chanson, ce serait laquelle?
Ce serait la chanson que j'ai chantée à ma fille pendant toute son enfance, enfin toute son enfance, quand elle était plutôt bébé pour l'endormir. C'est une chanson qui s'appelle Wayfaring Stranger, je crois. Ou My Wayfaring Stranger. Je ne sais pas qui la chante, mais j'étais tombée sur cette chanson-là. C'était chanté par une vieille grand-mère qui avait une voix complètement cassée, un peu ah, comme ça, un petit peu craquelée, je ne sais pas comment dire. Et je la trouvais très très belle. Elle c'était vraiment a cappella, comme ça, la chanteuse, d'une manière très très simple. Et c'est une chanson qui parle bah, de la vie avec toutes ses difficultés, toute sa tragédie et en même temps tout l'amour possible qui cohabite. Donc, voilà.
Très bien. Merci beaucoup. Un dernier petit portrait chinois. Ah, si c'était une recette de cuisine, ce serait laquelle? Ce serait quel plat, quelle recette,
Bah forcément un gratin. Ce serait vraiment parce que c'est dans une des scènes du spectacle, enfin du livre, on voit la petite fille doit aller se coucher, elle est en bas de l'escalier et elle va monter les marches en les comptant à rebours. Donc elle part de la marche 18, 17, 16 et à chaque marche elle a une nouvelle pensée. Une nouvelle émotion. Donc, et elle part, le point de départ de tout ça, c'est le gratin de sa mère. Le gratin, elle parle d'un constat que ce soir, c'était bon ce qu'elle a mangé. Et c'est pas toujours comme ça. Et à la marche 17, elle se dit, oula, heureusement que j'en ai pas trop parlé à mes parents parce que je les aurais vexés de leur dire que c'est jamais trop bon ce qu'ils font. Bon, marche 16, elle se dit qu'elle est quand même vraiment généreuse d'avoir eu des idées comme ça, c'est des idées. De penser à ses parents de cette manière-là, elle se trouve vraiment sympa. Et marche 15, c'est papa qui lui dit de redescendre pour aller se brosser les dents, donc elle est en colère. Et comme ça, elle grimpe l'escalier pour finir par justement faire ce vœu. Toute cette montée-là l'amène à se poser la question du temps et de est-ce qu'elle a vraiment envie de quitter ses parents? Est-ce qu'elle a envie de ne plus un moment manger de gratin parce qu'elle sera plus à la maison? Donc tout ça l'amène à construire sa pensée et se dire non, non, je veux pas grandir, je veux que le temps s'arrête parce qu'on est bien comme ça. Et voilà. Donc c'est le gratin.
D'accord, donc le gratin comme le plat de l'enfance que représente un peu ce livre, l'enfance qu'il faut quitter un jour et avec courage et qu'il faut, voilà. D'accord, bah c'est parfait. Bah merci beaucoup pour ce temps accordé. Ça, c'était avec plaisir. On découvrira ce livre Home Sweet Home aux éditions Pierre de Plume. On peut le trouver en librairie dans la collection Zèbre à carreaux. Donc, c'était avec plaisir. On mettra ça sur le site internet. Merci beaucoup pour ce temps et on suit toutes vos aventures à venir avec grand plaisir. Merci beaucoup, Solène Jean.
Merci, merci beaucoup.
Les petits et les grands listes en même temps, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours sur TTFM 91.2.